écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Samira Sedira, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravie de te rencontrer pour parler des livres que tu as écrits, de ta vie un petit peu aussi, qui me semble assez liée à tout ça, et qui semble assez liée d'ailleurs aussi au fait que tu aies commencé à écrire, si j'ai bien compris. Donc, tu es comédienne et écrivaine. Ton premier roman, donc, qui était assez autobiographique, mais pas que, qui était un mélange autobiographique et fiction, L'odeur des planches, donc, a été interprété au théâtre par Sandrine Bonnet. Et nous nous rencontrons aujourd'hui pour parler de ton quatrième roman, qui sort tout juste, Des gens comme eux. Donc, bienvenue sur le podcast de So Sweet Planet.
Merci de m'accueillir.
En fait, j'ai décidé de commencer en lisant le résumé du livre.
Très bien.
Parce que c'est un petit peu long, mais au moins tout le monde va pouvoir nous suivre après.
Bonne idée.
Donc, carnage dans un village de montagne, où les 5 membres d'une famille sont assassinés par un voisin. Lors du procès, sa femme tente de comprendre la mécanique infernale qui a mené son mari à cette folie meurtrière. Inspiré d'un fait divers, le roman explore l'enfermement d'une petite communauté villageoise vivant en huis clos, où l'autre, par sa condition sociale, sa couleur de peau, son appétit de vivre, fascine et dérange jusqu'à la folie meurtrière. Les Langlois sont étrangers au pays, ce village de Carmack, perdu dans une vallée montagneuse où tout le monde se connaît et se ressemble. Et les Langlois sont riches, du moins en apparence. Ils se font construire un chalet impressionnant face à la maison modeste d'Anna et de Constant. Ils possèdent 3 voitures de marque, vivent sur un grand pied. Et puis, Bakary Langlois est noir. Entre les deux couples se noue une relation ambiguë, faite de fascination, de gêne, bientôt de jalousie, peut-être de racisme. S'y mêlent vite des questions d'argent placé et d'escroquerie. Mais comment Constant, cet homme décrit comme un homme normal par tous les témoins lors de son procès, a-t-il pu basculer dans cette folie meurtrière ? Ce livre, en fait, permet d'aborder donc pas mal de sujets très intéressants, très d'actualité, le racisme, les différences de classe sociale, la jalousie. Et donc, c'est inspiré d'un fait divers, l'affaire Flactif, ou la tuerie du Grand Bornand, qui avait défrayé la chronique, qui a aussi inspiré un film, j'ai vu.
Tout à fait.
Comment est né ce livre ? Pourquoi ce choix de ce sujet ?
Alors, c'est un fait divers. D'abord, le fait divers me fascine. Je crois que l'histoire d'amour entre la littérature et le fait divers existe depuis toujours. Donc, il y a eu des tas d'auteurs qui ont écrit autour des faits divers. On est fascinés, certainement les auteurs sont fascinés parce que nous sommes fascinés par l'âme humaine, les méandres de l'âme humaine, certainement fascinés aussi par notre propre faillibilité des hommes que nous sommes. Et donc ça, c'est déjà une première chose. J'avais été fascinée aussi par ce fait divers, donc survenu en 2003, parce que je me souviens des gros titres, et le mobile, c'était toujours « Il a tué par jalousie ou par envie », ça me semblait très réducteur. Donc j'ai été fouillée un petit peu, et je me suis rendu compte qu'en effet, c'était beaucoup plus complexe que ça. Ensuite, je pense que quand on travaille sur un fait divers, on travaille pour, peut-être, en tant qu'auteur en tout cas, pour dire ce qui n'a pas été dit. Ce que n'ont pas dit les journalistes, ce que n'a pas dit la justice, non pas par oubli, hein, mais parce que, évidemment, nous, l'auteur va se placer là où il n'y a pas de mots. Et moi, je me souviens m'être dit, tiens, ils n'ont pas envisagé ce fait divers sous l'angle de la haine raciale. Je ne dis pas que c'était juste ça. Je pense que c'est beaucoup plus complexe, que c'est un mélange de tas de choses. Mais aucun quotidien n'avait envisagé ce crime sous cet angle-là. Et puis en plus, il y a des éléments sur lesquels je travaille depuis toujours, qui m'obsèdent au quotidien et dans mon travail de création, les rapports de classe, le surgissement de l'étranger, toujours perçu comme une menace pour l'autre, pour un groupe. La fascination d'un être sur un autre. Il y a aussi le huis clos de la communauté qui m'intéresse beaucoup. Tout ça, la pression communautaire, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de travailler sur ce fait divers-là en particulier.
Oui, j'ai bien senti en lisant le livre que, en fait, qu'il y avait une envie de sonder, d'explorer et d'attirer l'attention aussi sur les mécanismes psychologiques qui peuvent conduire au dérapage.
Oui.
Je me suis demandé si c'était... Qu'est-ce qui avait le plus nourri ce livre ? Est-ce que c'était de l'imagination, de la fiction, de l'étude des faits de l'époque ou aussi des études psychologiques sur ce qui fait qu'on dérive et qu'en fait, un peu tout le monde, je serais tentée de dire, peut dériver, peut-être plus ou moins, mais enfin, on se croit toujours très à l'abri quand on voit des faits divers et puis
mais oui,
finalement, ça peut être
ça
des gens nous... tout proches de nous, peut-être nous un jour, qu'est-ce qui fait qu'à un
c'est
moment
ça... Oui, c'est peut-être pour ça que ça nous attire aussi, le fait divers, c'est parce que c'est une façon de distinguer ceux qui passent à l'acte et ceux qui ne passent pas à l'acte, donc nous. Ça nous rassure un peu sur notre santé mentale. Et pourtant, ça nous excite aussi sur cette possibilité de passer à l'acte. Donc moi, en fait, c'est un mélange de tout ce que tu as dit. Je me suis beaucoup documentée. J'ai lu beaucoup d'articles, j'ai vu pas mal de choses, des archives télévisuelles. Je me suis beaucoup nourrie, mais je me nourris beaucoup pour après m'en détacher. Et là, je laisse place à l'imaginaire. En général, je me documente, ensuite j'oublie tout ça pendant 2-3 mois. Et puis quand je reviens, je me dis alors qu'est-ce qui reste ? Mais je ne vais pas regarder tout ce que j'ai noté. Je ne vais pas du tout aller ouvrir mon ordinateur pour voir ce qui reste. Je vais voir ce qui reste en moi. Et les quelques éléments qui vont rester, ça va être des éléments qui m'ont sûrement frappé et des choses qui sont sûrement importantes pour moi. Avec ces éléments-là, c'est avec ça que je vais commencer à travailler. Donc en fait, ce travail-là, comment on pourrait dire ça ? C'est quelque chose de... C'est hybride. C'est un mélange de tas de choses. Et évidemment, la psychologie des personnages. Alors, psychologie, c'est pas si... Moi, en plus, je suis pas psychologue. Je sais pas du tout comment ça peut fonctionner.
Mais tu observes.
Mais j'observe. Je suis très observatrice de par mon travail de comédienne aussi. Et d'auteur, c'est vrai qu'on est très observateur et très amoureux du genre humain. C'est vrai, très amoureux du genre humain. Malgré ses défauts, malgré tout ce qui est de pire chez l'homme et la femme, nous en sommes pourtant très amoureux. Il faut, je crois, l'être. Sinon, on peut pas, comme sur scène, on peut pas jouer un personnage, même un personnage dégueulasse, on peut pas le jouer si on ne l'aime pas profondément.
Donc, au travers de cette histoire et de la colère, de la haine que l'on voit grandir chez Constant, qui finira donc par assassiner toute cette famille Langlois, tu décris aussi l'impact du regard de l'autre. Ce couple apparemment très à l'aise financièrement, qui regarde de haut Constant et sa femme, on sent naître, au début ils sont amis, puis on sent naître la condescendance, le mépris. Il y a une supériorité aussi de réussite sociale affichée, exhibée, avec une violence sourde mais implacable, qui devient vraiment très violente. Et lorsque Anna, donc la femme de Constant, donc elle commence à faire le ménage chez le couple Langlois, alors qu'au début, ils sont amis. Donc on voit comment petit à petit le rapport en fait, amical évolue. Et la façon dont les Langlois les considèrent, qui évoluent et qui changent aussi, jusqu'à ce qu'ils se trouvent en fait mis sur la touche, puisqu'il y a des réunions d'amis. En fait, ils apprennent accidentellement qu'ils ne sont pas invités. Donc elle fait le ménage. Donc on voit bien cette espèce de machine infernale qui se met en route, que personne ne voit en fait, à part eux qui le ressentent. Dans leurs amis autour, ils observent un peu ça, mais donc tu décris l'impact de ce regard, la façon dont les Langlois les considèrent, et donc ils ne sont plus à égalité. Et toi, tu as donc vécu une situation très proche, hein, tu l'as raconté, j'ai regardé l'émission avec Frédéric Lopez où tu racontes longuement tout ce que tu as pu ressentir et tout ce que tu as pu vivre. Tu l'as raconté donc dans ton premier livre, L'odeur des planches, même s'il y a aussi de la fiction, mais on sent bien le vécu de cette expérience de vie. Lorsqu'après des années à travailler en tant que comédienne, tu es donc devenue femme de ménage. Et au début, tu pensais que ça te semblait léger comme décision.
Complètement. Grande naïveté.
Anodin. Et puis en fait, tu te retrouves embarquée dans ce tunnel vers l'enfer et tu expliques comment tu passes de la visibilité sur les planches à l'invisibilité. Et je trouve que c'est bien décrit aussi dans Des gens comme eux, comment Anna, en fait, qui au début est une personne du village, a son couple, a une vie normale, et comment finalement ces gens qui deviennent assez importants parce qu'ils arrivent avec un statut social, avec de l'argent, avec tout ça, et comment ils arrivent par leur regard, par la façon dont ils les considèrent, à les mettre sur la touche et à faire qu'ils se retrouvent, en fait, petit à petit, ils se retrouvent...
D'égal à égal, ils deviennent dominés.
Oui, voilà.
Et dominants.
il passe de la visibilité à l'invisibilité, comme tu as pu le vivre, et tu décris comment donc ce regard qui change sur nous, je dis nous parce que ça peut arriver à chacun de nous, et comment ces regards qui ne vous voyez plus vous donnent l'impression de ne plus exister. Il y a une impression pour Anna de ne plus exister, on devient invisible. Comme tu l'as décrit dans L'odeur des planches, où toi aussi tu décris cette descente aux enfers, là où petit à petit tu travailles pour des gens qui ne retiennent même pas ton prénom, qui t'appellent Samia, Malika, enfin, oui, tout sauf vrai. Samira,
qui ne te reconnaissent pas
quand ils te croisent au City Market.
C'est vrai.
Voilà. Ouais. Et à partir de là, j'ai ressenti en fait comme. Donc je voulais voir avec toi si c'était. C'est quelque chose qui t'a marqué évidemment profondément, comme quand on traverse des épreuves comme ça, à moindre degré, je l'ai vécu moi en intérim, quand je bossais à côté
ouais,
de
oui,
mes,
c'est
mais,
pareil.
Et ouais. où on se retrouve à bosser avec des salaires de misère, à être traité, voilà, on est en intérim, donc on est invisible,
de la précarité.
De la précarité. Ouais. Et en fait, Non, mais vas-y.
Non, mais c'est vrai, si, c'est de la précarité, oui. surtout quand on passe d'un statut, mais c'est même pas un statut à un autre, c'est d'un monde à un autre, ouais. vraiment. Tout à l'heure, tu parlais de visibilité à invisibilité, mais c'est vraiment tout à fait ça, surtout quand on est comédienne et que
qu'on est très visible. Quelquefois, on vit au travers du regard de l'autre.
Ben oui, et puis on est sous les éclairages quand même. Et on est sur scène pour être écouté, regardé, entendu, admiré, et passer de ce métier-là au métier de femme de ménage qui est totalement à l'opposé. Hein. Alors là, vraiment, moi, je l'ai vécu. Dans ma chair, vraiment,
c'est vraiment les deux extrêmes. Hein,
deux extrêmes. Oui. Deux extrêmes. Mais vraiment, c'est fou comme expérience.
Mais en fait,
qui au final est extrêmement enrichissante. Mais quand on le vit, c'est un peu c'est très douloureux. Mais oui. avec du recul, on se dit, c'est fou quand même cette expérience. Parce qu'on passe vraiment de la lumière aux ténèbres. C'est un peu ça. Bon, j'exagère à peine, vraiment. Ouais. Parce qu'on devient totalement invisible. Le regard aussi change, le regard de l'autre. Le regard de l'autre, par exemple, sur une comédienne, c'est un regard d'admiration. Les gens sont très curieux. Quand vous dites à quelqu'un « je suis comédienne », tout de suite, on sent dans le regard de l'autre qu'il y a une lumière, tout à coup, qui s'allume. On sent qu'il y a de la curiosité. Et raconte-moi, et quand on dit qu'on est femme de ménage, c'est tout à fait l'inverse. Du coup, la conversation s'arrête, on passe à autre chose, comme si c'était très gênant pour la personne qui a entendu que « je suis femme de ménage ». Comme si c'était très gênant de l'avoir entendu et qu'il fallait tout de suite passer à autre chose. Et d'ailleurs, même moi, la honte que j'avais à le dire. Je n'ai aucun mépris pour les femmes de ménage, puisque moi, je l'ai fait quand même pendant 3 ans. Ça n'a rien à voir avec ça, mais c'était la honte, je crois, à cause du regard qu'on projetait sur moi. Quelque chose d'un coup qui n'était plus moi. Et je me dis, des gens qui vivent ça toute une vie durant, je trouve que c'est très difficile, quoi, très difficile.
Est-ce que, parce que en fait, en lisant les deux livres, je réfléchissais par rapport au fait qu'en fait, on est quand même très dépendant du regard de l'autre. Il y a une dépendance et il y a des professions où c'est accentué parce que justement, c'est soit il y a peut-être un peu d'illusion où on met quelqu'un sur un piédestal et de l'autre côté, il y a aussi de l'illusion en pensant qu'une personne, parce qu'elle fait tel travail, a moins de valeur.
Exactement.
Et il n'y a pas plus de valeur ou moins de valeur, en fait.
C'est fou. On est dans une société où on est défini par son travail.
Voilà.
Donc la valeur de l'être humain est définie par au travers de son travail.
Oui.
Donc tu es footballeur, tu gagnes des millions d'euros, t'es génial. Et tu es femme de ménage, tu gagnes, je sais pas, une misère, t'es rien. C'est quand même dingue qu'on soit défini par une valeur marchande, en fait.
Mais peut-être que c'est plus dans notre société.
Oui.
Parce qu'il y a des endroits dans le monde où la place de la réussite économique, sociale est peut-être moins mise en avant, moins mise au sommet de la pyramide de valeurs.
Exactement. Oui, voilà, je parle bien de notre société. Oui. Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens plus forte d'avoir justement traversé ces deux mondes d'extrêmes et où il y a ces deux illusions qui ne sont pas des illusions quand on le vit, hein, évidemment, parce que quand on est invisible pour quelqu'un, là, c'est une vraie réalité.
C'est vrai.
Mais je parle de l'illusion des autres.
Oui, ça m'a enrichi. C'est vrai, ça m'a enrichi. Et d'autant plus qu'il y avait un troisième, Bon, je trouve pas le mot, c'est pas grave. En tout cas, en étant devenue femme de ménage, je me suis aussi rapprochée de mes parents et de ce qu'ils avaient vécu.
Oui, c'est ce que tu racontes. Voilà. Parce qu'en plus, t'es femme de ménage,
chemin.
Mais il y a aussi l'histoire des origines.
Évidemment.
Il y a un cumul de,
voilà,
de choses qui
font... Voilà, ce qu'on peut appeler cette espèce de déterminisme social. Comme
voilà.
Je disais, bon, en fait, 40 ans ont passé, je me retrouve, oui. En fait, comme mes parents,
oui.
À faire des travaux précaires. Donc, on y est, quoi. Quoi ça a servi, tout ça? Pourquoi
oui.
Ça fait 40 ans que je suis là? En France, mes parents ont tout fait pour que je fasse quelque chose de vraiment, que je fasse mieux qu'eux,
oui.
Puisque c'est quand même le but, l'envie des parents, c'est qu'on fasse mieux.
Et leur sacrifice aussi.
Et leur sacrifice.
C'est souvent pour la génération.
Exactement. Et en fait, je me retrouve au même niveau qu'eux. Voilà. Donc ça, c'était hyper dur quand même. Ça, c'est quand je me suis fait un jour, je me suis assise et je me suis dit, oh là, voilà, j'ai fait ce constat-là. Et là, c'est vraiment très douloureux. Il y a eu aussi, quand j'en ai parlé à mes parents, j'ai mis beaucoup de temps à leur en parler. Et je me souviens très bien de la lueur de déception dans le regard de ma mère. Ça, c'est très dur à avaler quand même. J'ai senti qu'elle était déçue. Pas mon père qui m'a dit « Oh, ben c'est bien, comme ça tu apprends à te débrouiller ». Moi, ça, je trouvais que c'était quand même
oui.
Beaucoup plus positif.
C'était encourageant, moi.
C'était encourageant.
Même s'il ne pensait pas... Ça te renvoyait un miroir
oui.
Un peu plus positif.
Non, parce
positif.
Que pour lui, c'était pas si dramatique que ça. Quoi.
Oui.
Voilà, pour lui, c'était pas si dramatique que ça. Et donc, alors là, j'ai perdu le fil. On parlait de quoi, juste avant
Du fait, peut-être, de toi, aujourd'hui, te sentir justement plus forte d'avoir traversé et ceux qui te mettent sur un piédestal et ceux qui te
oui.
Prennent pour
oui.
Rien du tout.
C'est ça. Et même quand je suis... Après, j'ai repris le théâtre. Hein. J'ai repris le théâtre avec... J'avais l'impression de me sentir beaucoup plus détachée. Alors ça, c'était une bonne chose. Parce que avant le ménage, il n'y avait que le théâtre qui existait, donc j'étais quand même dans ma bulle hein, artistique. Je ne fréquentais que des artistes. On est quand même dans une bulle assez protégée, un peu protégée même de la société et de difficultés de la société. Et quand la bulle éclate et qu'on se retrouve avec les gens de la société, là on se dit ah ouais, ben, il y a tout un pan de la société que je connais pas en fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Oui, et en plus les gens qui eux sont restés dans la bulle t'oublient assez vite.
Ah ben carrément, oui.
C'est là,
oui. Ah ben oui, et t'oublies assez vite, t'as beau les appeler, ils te tendent pas la main.
Oui.
Non, c'est, comme je disais, le théâtre t'enlève tout ce qu'il t'a donné en très peu de temps. Hein. Il te retire tout ce qu'il t'a donné en très peu de temps.
Dans beaucoup de milieux artistiques, je crois.
Ouais, ouais.
Ouais.
C'est fou quand même. Parce qu'on a l'impression justement que c'est des milieux très solidaires, mais pas du tout. Hein. Franchement, ça, je l'ai découvert. J'ai été...
Je crois que c'est dans l'être humain d'être attiré par ce qui brille. Donc les gens vont vers voilà,
oui,
c'est un
vers ce qui brille,
voilà,
vers ce qui est désirable.
Oui.
Voilà.
Et on a
quelqu'un
envie d'être
qui...
associé à être dans la lumière des projecteurs.
Exactement.
Alors
et quelqu'un
que quand
qui
n'est plus.
Et voilà. Et quelqu'un qui ne travaille plus.
Oui.
Et quelqu'un qui n'est plus désirable. Donc c'est un peu stupide quand même parce que bah oui.
D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a touchée dans L'odeur des planches où tu racontes. Au moment où tu vas poser chez les commerçants dans les rues de Maison Alfort les petites affichettes pour proposer tes services en tant que femme de ménage, et là tu racontes ce qui te passe par la tête, et justement tu racontes que avant tu les, je sais pas si on peut dire prenais de haut, mais en
si,
tout cas voilà.
C'est vrai.
Oui.
Et
tu racontes que là c'est un moment qui est assez poignant parce que tu rentrais dans ces commerces en les considérant pas très bien.
Ouais, non mais c'est vrai.
Parce que toi, tu étais l'artiste.
Ah ben, on est un peu, quand on est artiste, on est un peu... Et qu'on a suivi un chemin sans heurts, on est un peu dans les... On plane un peu quand même.
On
se sent quand même au-dessus de la mêlée, il faut dire ce qui est.
Oui,
c'est vrai, on se sent un peu au-dessus de la mêlée, on se dit tout va bien, puis moi, je me nourris de spiritualité, de choses artistiques, tandis qu'un commerçant, non, mais vraiment... Et le moment dont tu parles, dans le bouquin, je raconte que je rentre dans ce petit commerce et je me dis, en fait, du coup, ils ont de la valeur pour moi. Ils prennent de la valeur parce qu'ils bossent, parce qu'ils sont dans leur boutique, c'est stable, voilà.
Tout ce que tu n'as plus.
Tout ce que je n'ai plus. Moi, face à eux, je ne suis plus rien, quoi.
Ouais.
Ouais.
Oui, c'est un sacré cheminement. Hein.
C'est un sacré cheminement, ouais. Tout à fait.
Et dans les deux livres aussi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment cette description que tu fais de ce regard dominant, quoi, du regard qui domine. parce qu'il se croit supérieur et que voilà, et des conséquences de ce regard. Et donc c'est quelque chose que l'on peut retrouver ça dans les différences de classe sociale et dans le racisme en fait. Il y a la ce regard dominant qui se croit supérieur sur la base de choses
qui ne tiennent pas de différence. En fait. Ouais, tout à fait.
Voilà, qui ne sont pas vraiment sur des critères de valeurs humaines à proprement parler. Et aussi, tu décris assez bien comment les personnes qui sont dans cette position abusent de cette position. Parce que vraiment, dans les deux cas, c'est assez fort. Hein. Aussi bien la femme du couple langlois,
Sylvia.
Voilà, quand elle dit à Anna, mais oui, mais il reste, enfin, qu'elle l'invite à se mettre à la même table qu'elle pour prendre un café ou un repas, et elle daigne lui offrir une place à table, alors qu'avant ils étaient amis. Et donc on voit bien la dégringolade de rapport. Et toi aussi, quand tu arrives et que tu décris chez le monsieur, là,
oui,
et que
le chef d'entreprise.
C'est monstrueux, quoi. Et en fait, c'est même pas comment il te considère, puisque il est même pas là en face de toi. C'est comment il te considère même pas du tout dans la façon dont il laisse toutes ces merdes et sa merde, hein, puisque non, tu décris vraiment tous ces détails sordides et finalement qui sont quand même assez répandus hein, dans l'attitude.
Oui, oui, oui. Oui, pour lui, je ne suis qu'un service.
Oui. Il paye, donc c'est normal que tu détoies ça.
Il paye, il peut déposer ce qu'il veut au fond de la cuvette. Oui. Je suis payée pour nettoyer. Il peut déposer ce qu'il veut dans son cendrier qui déborde. Je suis là pour nettoyer. Voilà, l'évier qui déborde, peu importe. Je suis à son service.
Toi, quand tu as vécu cette situation, tu étais comédienne, tu avais quand même déjà toute une culture,
oui.
Tu avais appris à réfléchir.
Mais je ne disais jamais que j'étais comédienne. Hein.
Non, mais je veux dire, tu en as fait quelque chose. Dans la famille, Constant, lui, il en fait un meurtre, il dit ça. Mais en fait, entre les deux, on comprend aussi que beaucoup de gens qui vivent ça, de se faire regarder comme ça de haut, sans aucune vraie raison, que ce soit dans le racisme ou dans les classes sociales, on comprends que ça déclenche de la violence. Et je trouve que dans ton livre, on voit bien ce cheminement. Est-ce que tu as voulu mettre le doigt là-dessus par rapport à un contexte plus général, par rapport à... Je ne sais pas, parce qu'en fait, on voit bien qu'à chaque fois qu'on parle des sujets qui fâchent, du racisme, des banlieues, de la délinquance, de tout ça, très souvent, on se focalise sur les faits. Et en fait, on en parlait avant l'interview, quand on remonte un peu dans le temps, au niveau de comment on en arrive là. Pourquoi on en arrive là? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a envie de s'en prendre à tout le monde? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de tout casser? Qu'est-ce qui fait que...
Oui, c'est le but. Enfin, je veux dire, c'est le travail de l'auteur, du romancier.
Oui.
Je pense qu'on n'a pas à juger. Je pense que ce qui est plus important, je crois, pour un auteur, ce n'est pas le surgissement de l'acte. Le surgissement de l'acte, il va prendre... c'est un temps très court. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est le temps plus long, en amont. Qu'est-ce qui a pu se passer? On va remonter le temps et on va le remonter et en essayant de comprendre et peut-être même, je crois que c'est vraiment le but de l'auteur, de pardonner ce que ne fait pas la justice ou par exemple ou la police mais l'auteur doit le faire, je crois, de ce désordre, essayer de remettre de l'ordre dans ce désordre. Parce qu'on n'est pas là pour juger. Je crois que ce n'est pas du tout la fonction de l'auteur. La fonction de l'auteur n'est pas de juger, mais d'essayer de comprendre.
Et puis du coup, peut-être d'aider d'autres à comprendre, d'aider le lecteur aussi à cheminer. Parce que la semaine dernière, j'ai fait une interview de Laura Nsafou, qui est une jeune femme noire qui a fait, elle, un cheminement par rapport au fait que elle a un blog qui est assez connu, tout ça. Et en fait, là, elle a sorti deux livres pour enfants avec des petites héroïnes noires. Et par rapport au fait qu'elle, petite, n'avait pas de livres pour enfants avec des petits héros noirs auxquels s'identifier. Donc, il y a aussi tout un cheminement. Et par rapport à ce qui est sur son blog, elle a écrit une phrase qui est en introduction, qui est extraite d'une saison blanche et sèche. Mm-hmm. Et en fait, la phrase, c'est « écrire, point, pour que l'on ne puisse plus dire « je ne savais pas ». Et au travers de tes livres, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de cette démarche-là, d'aller justement explorer tout ce qui est derrière le reportage télé où on voit un fait divers, où on voit de la délinquance, où on voit tout ça. Mais justement, de donner à comprendre avec de la réalité et de la fiction. En fait, les deux sont mêlés, parce que dans L'odeur des planches, c'est quand même autobiographie oui. et fiction, et oui. Des gens comme eux aussi.
Ah oui, 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 bien sûr. Dans Des gens comme eux, le point de référence, c'est l'affaire Flactif. Oui. Bon, on va pas se le...
Mais tu as donné d'autres noms.
J'ai donné d'autres noms, voilà. Et puis j'ai retravaillé les personnages, j'ai retravaillé les relations. Nous, on va, comme je disais plus haut, l'auteur va essayer de dire ce qui n'a pas été dit, ce qui est resté dans le silence.
Mais c'est hors des radars, quoi.
C'est hors des radars, oui. Et c'est un autre chemin qui va prendre. C'est un chemin différent des journalistes, différent de la justice, différent de tout ça. Lui, il va faire il va échafauder des hypothèses, il va essayer de comprendre, il va aussi se laisser guider par ses personnages. Il va les laisser faire. Et ça n'a rien à voir avec un travail de journaliste, par exemple.
Mais à partir du moment où c'est de la fiction, on a l'impression qu'on n'est que dans la distraction et le loisir. Or, moi, ce que je trouve très intéressant dans des livres comme les tiens, c'est que toute cette partie qui est hors des radars, c'est quand même ça qui pourrait nous aider à construire un monde meilleur, c'est-à-dire comprendre si on va vraiment chercher en amont pourquoi c'est valable pour tout, hein, aussi d'ailleurs sur la planète, hein, quel que soit le, que ce soit au niveau individuel ou au niveau des États. Mais plus on commence à chercher quelles sont les vraies causes en amont de tout ça, et quelquefois c'est une chaîne de causalité comme des petits dominos qui se... Mais ça aide à comprendre un petit peu ce qui se passe, mais surtout ça peut aider à ne pas reproduire.
Oui, aussi, c'est vrai. Après, ça, je ne suis pas certaine que ce soit possible. Aider à comprendre, oui.
Ben,
après, ne pas le reproduire, je ne suis pas certaine.
Il y a quand même, dans ce que tu décris, par rapport que ce soit les situations racistes ou par rapport aux classes sociales, et de ce que tu décris et de ce qu'on peut voir dans la vie, généralement, la plupart des gens qui perpétuent ça, qui le font subir, qui font subir ce type d'attitude, ne s'en rendent même pas compte.
Oui, bien sûr.
Donc, il y a quand même des prises de conscience qui sont possibles. On peut espérer, non?
Oui, bien sûr. Je l'espère, en tout cas. Après, oui.
Parce que toi, dans L'odeur des planches, tu décris quand ton père arrive, et puis ta mère, et puis toi qui te retrouves là-dedans, et petite, et qui subit aussi le racisme, et le regard sur quelqu'un qui est différent, qui a physiquement, et son nom, et toutes ces choses qui marquent cette différence, et qui font que tu vas être considéré aussi autrement. Et quand tu parlais de déterminisme social, est-ce que c'est aujourd'hui, ta maman est toujours vivante? Je crois que ton papa est décédé.
Oui,
hein.
Oui, mon père est décédé, voilà. Oui.
Et ta mère, qu'est-ce qu'elle pense aujourd'hui de ton parcours? Parce que finalement, tu l'as quand même jugulé, le déterminisme social.
Oui, bien sûr. Ben, ma mère, elle est très fière quand même. Elle est très fière, très heureuse. Je pense qu'elle se dit qu'elle a réussi quelque chose. Et c'est vrai, parce que moi, je...
Parce qu'elle n'osait même pas rentrer dans une boulangerie pour elle te... Parce qu'elle ne savait pas comment
demander. Alors, dans L'odeur des planches, c'est vrai que je dis que je suis fille unique, mais je ne suis pas fille unique. Hein. Nous sommes 9. Mais j'ai voulu m'en débarrasser pour une fois. Mais oui, quand j'étais petite, moi, je rêvais d'être enfant unique. Hein. Quand on est 9, difficile de trouver sa place. Ou alors juste être considéré comme un groupe, c'est un peu compliqué.
Marc, c'est mieux que d'assassiner tout le monde.
Bah oui, moi je les ai assassinés dans un livre, mais ils sont toujours vivants, donc tout va bien.
Tout va bien.
Et oui, alors ça y est, j'ai perdu le fil à nouveau.
Par rapport à ta maman et à la fierté aujourd'hui qu'elle a de tout ce que... Par rapport au fait qu'elle, elle n'osait même pas rentrer dans une boulangerie, elle ne savait pas dans quelle norme dire bonjour, merci, demander un gâteau.
Oui, mais quand on arrive dans un pays étranger, c'était exactement ce qui se passe. Surtout quand on arrive dans un pays étranger, où on arrive, on n'a pas vraiment envie d'être là quand même. Hein. Elle a juste répondu à l'appel de mon père. Et elle aussi, poussée par sa famille, elle a quitté l'Algérie, alors qu'elle n'avait aucune envie de quitter l'Algérie. Elle se retrouve dans un pays étranger, où elle ne parle ni la langue, elle n'a pas de boulot, elle ne connaît personne. Et souvent, ces femmes-là se retrouvaient dans des endroits vraiment
sordide.
Affreux, quoi, sordides,
l'hôtel dégueulasse. Que tu décris, là, voilà, à Marseille,
ouais.
C'est...
Oui, les hôtels, ou alors les squats, ou alors les bidonvilles, enfin, quand même... Alors qu'elles avaient entendu des choses merveilleuses, et elles se retrouvent soudain dans des endroits atroces. Mais ça arrive, c'est arrivé souvent dans l'histoire de l'immigration. Il y a aussi ces jeunes japonaises, j'avais vu un très beau spectacle tiré d'un texte, quel roman Elle n'avait jamais vu la mer ou quelque chose comme ça. Oh, bon, bref. Mm-hmm. Où ces femmes japonaises étaient attirées par des Japonais vivant aux États-Unis. Je crois que c'était dans les années 20, quelque chose comme ça, 20-30. Et elles arrivaient là aussi dans des endroits sordides, alors qu'on leur avait décrit un truc.
Oui, on leur avait bien vendu le...
Ah, on leur avait bien vendu les États-Unis, sauf que souvent c'était... Donc elles se retrouvent là... souvent sans vie sociale.
Oui, parce que la France a fait venir donc beaucoup de...
Beaucoup d'ouvriers.
D'ouvriers.
D'hommes, d'abord.
Donc on les a fait venir pour travailler, parce qu'après la guerre, on avait besoin, et sans réfléchir au fait que... Au logement.
Voilà.
D'où les baraques en planches, les bidonvilles.
Ni au logement, ni à se demander si ces hommes-là avaient une famille. Et évidemment, cette famille allait devoir quand même s'installer en France.
Oui, s'ils auraient envie d'être réunis un jour.
Voilà. Donc c'est quand même fou de ne pas penser à ça. Donc souvent les hommes se retrouvaient, quand ils arrivaient seuls, dans les foyers Sonacotra. Les fameux foyers Sonacotra, ou les hôtels sordides, les marchands de sommeil.
Oui.
Et quand les femmes les rejoignaient souvent avec des enfants, puisque les hommes faisaient la navette, hein, ils travaillaient 6 mois, ils repartaient 6 mois, ils travaillaient en fait pour nourrir leur propre famille restée au pays. Oui. Voilà, ils faisaient la navette. Hein, ça s'appelait, ce mouvement, c'est la nourria, je crois. Ça s'appelle la nourria, le mouvement d'aller d'un endroit à un autre, une espèce de va-et-vient incessant. Et donc, c'est vrai que le gouvernement n'avait pas réfléchi à ça, n'avait pas réfléchi au fait qu'une famille allait peut-être s'installer avec des enfants, qu'il fallait scolariser ses enfants, peut-être que ses enfants resteraient en France, peut-être que ses enfants-là allaient devoir travailler, tout ça, ils n'y avaient pas pensé.
Et au choc des cultures, arriver ici, c'était quand même une autre langue, une autre religion.
Tout.
Et on leur demande très vite de s'intégrer, c'est plutôt d'être assimilés.
Oui,
parce qu'on leur demande de renier en fait, leur culture d'origine pour pouvoir passer.
À l'époque, c'était ça.
Être invisible pour du coup.
Oui, totalement.
Même si après, ils ont subi.
Se fondre dans la foule, voilà, c'était ça. Ouais. Et c'était un peu c'était de cette façon-là qu'on nous éduquait. Sauf qu'on a été désobéissants. On a dit que non, que nous, on n'avait pas envie de se fondre dans la foule et qu'on avait certainement... nous, on avait envie d'être visibles, on avait envie de travailler dans ce pays-là et on avait envie d'être considérés comme des Français.
Oui. Ouais. Et dans le roman graphique dont on parlait avant cette interview de Laurent Maffre, où il y a donc 2 volumes sur le bidonville de Nanterre, la cité de transit de Gennevilliers, donc le bidonville La Folie.
Oui, La Folie.
Et il a fait un gros travail pour décrire tout ça. Et justement, il décrit beaucoup, surtout au moment où ils sont dans l'attente d'un éventuel... logement, qui au début c'est encore une baraque un tout petit peu mieux que celle d'avant, enfin bon, et ils sont prêts à tout accepter. La règle d'or, c'est de ne surtout pas se faire remarquer, de ne surtout pas avoir un mot plus haut que l'autre, de vraiment
pas de vague.
Pour réussir à... Et en fait, dans tout ça, on voit aussi, et que ce soit là encore dans ton premier livre ou dans Des gens comme eux, l'humiliation. C'est terrible, l'humiliation, quoi.
Oui, bien sûr, et c'est ce qu'ils vivaient à longueur de temps, hein. C'est ce qu'ils vivaient à longueur de temps. Et pour nous, enfants, c'est compliqué quand même. Parce que le père est considéré comme une espèce de roi sans couronne. Parce qu'il est humilié du matin au soir. De par son travail, la précarité de son travail. De par aussi des tas de choses, quoi. Les réflexions quotidiennes, le racisme, enfin tout ça. Et souvent, c'est vrai que pour le regard des enfants, c'est compliqué quand même à gérer. C'est compliqué, parce qu'un père, c'est quand même quelque... Et surtout pour les garçons. Pour les garçons, c'est compliqué à gérer. Et c'est peut-être pour ça que les garçons de cette époque ont voulu se faire entendre, je crois. Ils ont bien fait, d'ailleurs. Bon, nous aussi, on avait un vrai désir. Les filles aussi avaient un vrai désir de se faire entendre, mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des paramètres de tradition, de culture qui entrent en jeu. Voilà, mais...
Oui, parce que toi, il a quand même fallu que tu t'affranchisses aussi de
carrément.
Pour devenir comédienne et pour suivre ta
voie. Surtout pour vivre ma vie,
oui.
D'abord dans un premier
temps. Suivre ta voie, vivre ta vie.
Oui, parce que j'étais quand même dans un carcan traditionnel, pas de liberté, pas de garçon, pas de sexualité, pas de tout ça.
Il ne restait pas grand-chose,
c'était quand même très mortifère. Et moi, je me suis dit non, pas question, quoi, pas question. Et en fait... Pour les filles de l'époque, la seule solution, c'était d'avoir le bac. Donc le bac était... Moi, j'ai toujours considéré mon bac comme un passeport. Voilà. Une fois que j'avais mon bac, je pouvais prendre l'avion, quoi. Et quand mon père a vu que j'avais le bac, et je lui ai dit, moi, je veux étudier, il n'y a pas eu d'autre choix que dire oui, moi, je voulais étudier. Et étudier, c'était partir, sortir de chez moi. Donc nous, on habitait dans le Var, et la faculté, la plus proche, c'était Aix-en-Provence, mais c'était quand même à 150 km. Et donc, j'avais ma chambre en crous, j'avais... Et là, enfin, je vivais ma vie. J'étais complètement autonome. Et j'avais enfin ma vie, quoi.
Ton père, sans doute, en fait, sûrement, au moment où il te laisse partir, mais qu'il préfère que tu fasses ça plus loin.
Plus loin, voilà. Surtout qu'on ne me voit pas.
Moi, il n'y a pas de honte.
Voilà, parce que le regard de l'autre est très important aussi dans ces communautés.
Ouais. On en revient là encore.
On en revient là. Ouais. Le regard de l'autre, la pression de la communauté.
Oui.
Ouais. C'est d'ailleurs ce que j'aborde dans mon deuxième roman, qui est Majda en août. J'aborde ça. Puis oui, voilà. Et donc, je me suis affranchie, c'est vrai.
Et donc, tu deviens comédienne et pendant combien d'années avant cette chute
difficile. Je deviens comédienne, donc après avoir fait l'école de la Comédie Saint-Étienne. D'abord, je vais à la fac, je m'ennuie, machin, je me cherche. Je me dis, tiens, le théâtre, c'est pas mal. Et puis après, il y a quelques années encore. Et enfin, je rentre à l'école de la Comédie Saint-Étienne. Et je deviens comédienne. Et ensuite, je travaille pendant... Ça se passe vraiment bien, quoi. Hein. Vraiment, c'est la voie royale pour moi, à part quelques mois. Mais c'est normal, hein, on est intermittent du spectacle. Donc, il y a des moments où ça s'arrête. Mais c'est jamais plus de 6 mois, quoi. C'est un truc vraiment correct. Puis un jour, il n'y a plus rien. Mais vraiment plus rien.
Et ça, ça dure 15, 20 ans
20 ans.
Ah oui, 20 ans.
20 ans.
Oui, c'est pas juste démarrer en tant que comédienne non, et puis à un moment, il n'y a plus rien. C'est que c'était vraiment installé quand même.
Ah bah, carrément, oui. Ouais. Ouais, ouais. Vraiment installé. Je travaillais régulièrement jusqu'au moment où ça s'arrête. On ne sait jamais pourquoi ça s'arrête. C'est très mystérieux. Oui. Ça s'arrête parce que ça s'arrête. Mais pour des tas de comédiens, connus, pas connus, il y a un moment, ça s'arrête. Ça peut arriver à n'importe qui. Voilà. Et ça s'arrête, plus de chômage, donc plus en fin de droit, pas de projet. Là, quand il n'y a pas de projet... On se dit, ça va être compliqué. Là.
Oui, l'angoisse arrive.
Mais le métier d'acteur, c'est de toute façon un métier d'angoisse.
Hein. Oui.
Parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va faire le lendemain. On sait pas du tout ce qu'on... C'est un métier très instable. Il n'y a pas de sécurité d'emploi. Mais on choisit de le faire. Donc,
oui, voilà. Quelquefois, c'est justement pour fuir la routine qui ne convient
ça,
pas.
C'est...
Hein,
aussi. Oui. Aussi, oui. Oui, c'est vrai. Ouais. La routine, c'est... Ouais.
Mais là, et tu parlais, toi, de ta génération par rapport au père et à la difficulté, à la déception, à la honte du père de ne pas pouvoir offrir mieux et tout ça. Et toi, tu revis ça par rapport à ton fils.
Oui,
un jour,
vrai.
Tu l'emmènes travailler avec toi. Et en fait, il te dit, mais c'est ça ton travail, maman, le frottage.
Oui, c'est ça.
Et là, tu racontes ta tristesse, quoi.
Oui.
Il y a un grand moment de vertige, là.
Oui, c'est un moment de vertige. Puis ça agit d'un coup comme un miroir. Je repense à mon père, forcément. Moi, je ne le vivais pas de la même façon pour mon père. Moi, je me souviens une fois, donc, il y a une scène où je me souviens, j'ai vu sa fiche de paie. Mm-hmm. Je devais avoir 7-8 ans. Je me souviens uniquement de ouvrier spécialisé.
Ah oui, OS.
OS. Et moi, je me disais, waouh, mais mon père, ce n'est pas un ouvrier quelconque, hein. C'est un ouvrier spécialisé.
Oui. Tu avais envie de l'admirer, en fait.
Mais oui, et pour moi, je me disais, waouh. En fait, quand on sait ce que ça veut dire ouvrier spécialisé, on se rend compte que ce n'est rien du tout l'ouvrier spécialisé, puisque ce n'est pas lui qui est spécialisé, c'est la machine avec laquelle il travaille. Voilà, donc c'est ce qu'il y a au plus bas de l'échelle, au fond, l'ouvrier spécialisé. Oui. Donc ça, c'est une parenthèse, mais oui, c'est vrai, d'un coup, mon fils qui me pose cette question, et là, il y a un grand sentiment de tristesse qui m'envahit. Je me dis, je le déçois. Je ne suis pas certaine, en fait, de l'avoir déçu. Je ne sais pas.
Tu ne sais pas quel sentiment l'a traversé à ce
moment-là. Non, l'a traversé ou l'a envahi, je ne sais pas. Peut-être que...
Parce que toi, tu avais peur qu'il ressente ça, voilà.
Oui,
donc, tu as projeté ça.
Oui, peut-être que j'ai projeté, j'en sais rien. Il était jeune, hein, je crois qu'il avait 5-6 ans à l'époque. Il faudrait que je lui pose la question, maintenant qu'il en a 14, ce qu'il en a pensé. En tout cas, moi, c'est vrai que ça m'avait vraiment... ça m'avait fait beaucoup de peine... parce que ça avait agi en miroir, je crois. Mmh. Ouais.
Et quand tu commences à écrire, comment ça se passe, en fait? Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a encouragé à sortir tout ça et finalement à écrire un livre au début, j'imagine, en ne sachant pas ce que ça donnerait?
Bon, alors l'écriture, ça a toujours existé hein, chez moi. Oui, j'ai toujours écrit. Dès qu'on m'a donné, on m'a donné un stylo étant petite, j'ai commencé à écrire et je crois que j'ai jamais arrêté. J'ai toujours adoré ça, écrire et lire. Donc, Ça a toujours existé. J'ai toujours fait des bouts de texte, des bouts de machin, des demi-manuscrits, des moitiés de nouvelles. Enfin bref. Mais je n'avais jamais été au bout d'un vrai objet livre. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire quand j'étais femme de ménage, je me souviens, mais c'était pour rééquilibrer quelque chose en moi.
Oui, comme des gens qui font un journal intime, pour oui, peut-être pour que ça sorte. Pour
surtout que sans création, moi, je m'assèche. Je me suis vraiment... Et quand on fait des ménages toute la journée, c'est un travail très répétitif, très pénible, très dur, physiquement.
Oui, fatigant.
Ouais, fatigant, mentalement, psychiquement, très asséchant, je trouve. On pense à rien.
Il y a des douleurs, t'as mal partout.
Ah oui.
Tu racontes,
ouais. Ça, c'est... Avant de commencer ce travail-là, je n'imaginais pas à quel point ça pouvait être épuisant, quoi. Quand on fait 5-6 heures de ménage à la suite, on rentre chez soi, on est complètement lessivé, mais vraiment. On n'est plus qu'un corps. Je me disais, tu n'es plus qu'un corps. Tu ne penses plus, tu n'es plus qu'un corps.
Ah oui.
Ah ouais, vraiment. On n'est qu'un corps parce qu'on l'entend. Il se plaint tout le temps, ce corps. Il a mal partout. J'avais envie de... Oui, en tout cas, de créer. Parce que moi, sans création, je me sens sèche, quoi. Je me sens pas nourrie. Donc, j'ai commencé à écrire. Et j'ai commencé à écrire parce qu'un jour, je me suis retrouvée avec une amie, on buvait un coup, et je lui disais, le plus dur, je lui racontais. J'ai raconté à très peu de gens que je faisais des ménages, oui. Très, très peu de personnes.
Oui, ça se comprend.
Ouais, ouais. Donc, je gardais ça pour moi, et là, je lui ai dit. Et je lui ai dit, le plus dur, c'est d'être revenue au même niveau que mes parents. Ça, c'est dur. Et elle me dit, ben, c'est ça qu'il faut, écris-le, ça. Ça, c'est intéressant à écrire.
Mais à écrire pour toi ou pour... Parce que, en fait, je pose cette question parce que, justement, tu dis que tu n'en parlais à personne.
Non.
Mais faire un livre, c'est exposer à tout le monde.
Oui,
c'est
oui.
C'est quand même passer d'un extrême à l'autre.
Oui, mais sur le moment, je n'y pensais pas du tout.
Ah, pas l'éditer, tu veux dire. Tu ne pensais pas à le publier.
Si, je pensais à le publier. Mais l'angoisse est arrivée à la veille de la sortie du livre. La veille, je me disais, mais en fait, tout le monde va le savoir.
Oui, tu n'avais pas réalisé pendant
non,
tout ce temps.
Là, tout le monde va le savoir, tout le monde va le découvrir. Tu l'as caché, mais en fait, tout le monde va le découvrir. Oh, et là, c'est très angoissant quand même. Ouais, là, c'est très angoissant. Et on a juste envie de dire, on stoppe tout, on
C'était
arrête
trop
tout.
Tard.
C'était trop tard. Bah, oui, ils avaient imprimé, tout était sorti, tout était déjà en librairie.
Et en plus, avec la promo, il faut que tu racontes et que tu re-racontes.
Mais oui,
et que...
oui. Oh là, là, c'était quand même très, très, très compliqué. Et en fait, c'est super bien passé. Au fond, j'ai eu pas mal de retours hyper positifs, y compris des gens de théâtre qui m'ont dit merci parce que, au fond, c'est une parole qu'on entend peu. La précarité des artistes, on l'entend peu. Des comédiens, là, en l'occurrence, parce que c'est le monde dans lequel j'évolue. Parce que les comédiens ont honte de dire qu'ils ne travaillent pas. C'est une parole, c'est une parole tabou. On ne dit pas qu'on va mal. Comme on en parlait tout à l'heure.
Ben oui.
On ne dit pas qu'on
ben
va
non,
mal.
On a honte. Parce que justement,
on a honte et on n'est pas. Et
on ne répond plus à ce qu'on attend de nous.
Voilà.
De briller,
et on n'est plus du tout désirable. Mais oui, un objet non désirable, on n'en veut pas. Et surtout que le désir, ça je le dis souvent, mais le désir ne va que dans un sens, du metteur en scène à l'acteur. Si le metteur en scène ne vous désire pas, ben, il ne vous prendra pas. Et si l'acteur désire travailler avec un metteur en scène, il aura beau lui dire ben, j'aimerais bien travailler avec toi. Il lui dira ouais, bon, ben, on verra. Pour l'instant, je t'ai pas en tête. Je ne t'envisage pas. D'ailleurs, même dans le lexique, mais c'est vrai, on dit « je te veux dans mon spectacle
oui, »,«
je
oui.
te prends dans
oui,
mon
oui,
spectacle
oui, ».
C'est
oui,
quand
oui.
même un vocabulaire oui. un peu hein,
oui,
érotico-amoureux.
Oui,
hein,
oui, oui.
C'est vrai quand même, ça tourne autour de ça.
Oui.
Mais ce désir-là ne va que dans un sens. Donc l'acteur est là, attend. Alors s'il veut agir, il faut qu'il fasse ses propres projets.
Oui, sinon ouais. il est dans la dépendance.
Ah ben il dépend oui. totalement du bon vouloir d'un metteur en scène. Et pour qu'un metteur en scène ait envie de vous, il faut vous montrer. Parce que si vous ne vous montrez pas, on vous oublie très vite. Il y en a tellement. Donc il faut aller aux premières, voilà, il faut passer sa vie à draguer quoi. En
mais
gros,
d'ailleurs hein. cette expression américaine bankable, puisque on veut des acteurs bankable, mais c'est horrible quand
c'est
on
horrible.
Y pense.
Ouais,
parce que c'est vraiment là, c'est vraiment que l'aspect financier. Quoi.
Ah ben là, on est dans
ça
la
veut dire
rentabilité,
que c'est, voilà,
la productivité.
C'est la personne qui attire tout le monde, qui attire l'argent, qui attire sur les réseaux sociaux.
Voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'un acteur reste désirable. Donc un acteur s'il veut être désirable, il faut qu'il bosse tout le temps, tout le temps, tout le
oui.
temps. Et, que,
oui,
et plus
oui.
il bosse, et plus sa valeur augmente.
Je trouve que tout ce que tu décris, c'est C'est des angles différents, mais c'est beaucoup par rapport à, au regard, quoi. L'impact du regard, du regard des autres.
Mais parce qu'il nous définit un peu,
le raciste et celui qui subit le racisme, là, dans des gens comme eux, c'est plus par rapport aux classes sociales, mais il y a cette violence, toujours, de...
du regard.
Oui.
Ouais. Ouais. Oui, oui. Et bien souvent, entre ce qu'on croit être et la façon dont le regard de l'autre vous définit, c'est souvent pas compatible, ces deux choses-là. Souvent, on se dit, tiens, en fait, c'est comme ça qu'il me voit, mais c'est pas du tout comme ça que je me sens. C'est souvent pas compatible.
Oui, mais là, il y a tout le truc des préjugés, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais,
c'est préjugés souvent, que subissent la plupart des minorités. Hein, c'est, il y a le racisme, mais il y a aussi toutes les questions de genre, LGBT, tout ça, du petit garçon efféminé qui va se faire rejeter à l'école.
Le problème des différences.
Voilà, et là, on est quand même toujours sur le regard. Et ça m'a fait penser, parce que là, on est dans un village de montagne, de gens qui sont habitués à vivre entre eux.
Oui.
Donc là, à partir du moment où le noir arrive, et je ne sais pas si tu avais vu, il y a une vidéo, une petite vidéo qu'on trouve sur le net qui avait été faite dans un village en Suisse, quand James Baldwin arrive dans ce village où, qui est perdu dans la montagne, où il vient parce qu'il est en dépression. C'est un ami lui prête un chalet pour venir se reposer dans ce village, mais qui n'est pas un endroit de chalet où on fait du ski. C'est vraiment un endroit très perdu. Et ils n'ont jamais vu de noir. Et en fait, il raconte ça. Et il y a une vidéo où on le voit marcher dans le village. Et puis aussi, je crois qu'il en a fait un petit... Il y a eu quelque chose de publié par rapport à ça. Et en fait, ça me rappelait ça, ton...
Oui, mais c'est ça. Et bien, je repense à une histoire. Je peux la raconter.
Oui, bah oui.
Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'étais animatrice. Et un jour, on était dans un petit village. Je ne sais plus lequel. C'est tellement vieux que je ne sais plus. Et donc, j'étais la seule basanée du groupe... parmi les enfants et les animateurs. Oui. Et il pleut des cordes et on se retrouve dans une... On demande à un paysan de nous protéger dans sa grange. Il nous protège et je vois qu'il me regarde. Mais je pense qu'il n'avait jamais vu de personne de ma couleur. Et je vois dans son regard qu'il est à la fois interloqué, fasciné. Et je sens qu'il y a une vraie curiosité. Et puis il s'approche comme ça vers moi. Il me dit « Oh, qu'il est joli ce petit noireau !» Déjà, il m'avait pris pour un garçon. Comme s'il parlait d'une bête, ou je ne sais pas, ou d'un petit veau.
Donc, tu étais un garçon et noir. Je précise pour les auditeurs qui ne te voient pas que tu n'es pas noir.
Mais oui, et puis d'un coup, je me suis sentie comme un petit veau, en fait. Mais je ne suis pas certaine que dans sa bouche, ça ait été consciemment... je pense que c'était sincère, que c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un comme moi. Vraiment, que c'était la première fois, mais je l'ai vu dans son regard, que c'était quelque chose d'inédit, quoi, vraiment pour lui. Et c'est sorti, je crois que sa parole a devancé sa pensée. Il m'a dit « Oh, qu'il est joli ce petit noireau
!» Et toi, comment tu l'as vécu, donc?
Oh, ben, j'étais troublée, quand même.
Mais t'avais quel âge?
17-18 ans,
ah oui,
j'étais animatrice.
T'étais pas... Ah oui, oui, c'est oui, ça, oui, t'étais pas
je me souviens,
enfant,
un kawé. Non, j'avais un kawé qui fermait bien, là, autour de mon... J'avais une capuche.
Il ne voyait pas tes cheveux.
Voilà, il ne voyait pas mes cheveux, donc il ne voyait que mon visage. Et je me souviens très bien de la grande curiosité dans son regard. Il voyait quelque chose d'un peu étrange. Et là, c'est peut-être la première fois que j'ai été confrontée à quelque chose d'étrange, vraiment. Où je me suis dit, tiens, je suis sûrement différente, alors. Parce qu'on ne sait pas, en grandissant, je me souviens, moi, on ne se rend pas compte qu'on a une couleur de peau différente.
Jusqu'à ce que l'autre te le renvoie.
Voilà, jusqu'à ce que l'autre te le renvoie. Y compris le sexe. On s'en fiche un peu. Moi, j'ai toujours grandi sans savoir qu'elle était... Jusqu'à 18-19 ans, sans savoir quelle était vraiment...
sans chercher à correspondre à un genre particulier,
exactement.
En étant toi-même.
Oui. Voilà, on est juste soi-même. Oui. Et puis un jour, l'autre te définit, au fond. Oui. C'est ça.
Enfin, on peut continuer à se définir comme on veut aussi.
Bien sûr, c'est une première étape.
Oui,
après,
parce que
évidemment...
ça peut être une prison, hein, de se laisser définir aussi par l'autre et
faire
des dégâts.
C'est juste la première
aussi.
Étape.
Oui.
Et puis après, évidemment, on se définit par soi-même.
Après, on se rend compte quand même que ça peut être...
Mais je parle donc des premières expériences avec l'autre et le regard de l'autre.
J'ai lu ou entendu que tu avais été quelqu'un de très révolté. Et je voudrais bien savoir qu'est-ce qui te révoltait, et si on en parle au passé, donc si tu as été quelqu'un, parce que dans l'interview c'était formulé comme ça, donc ça laissait entendre que tu ne l'étais plus ou que tu l'étais moins, donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui te révoltait autant, et aujourd'hui qu'est-ce qui peut encore te révolter.
Oh là là, bah, ce qui me révoltait quand j'étais petite et jeune fille, et quand j'étais chez moi, c'était les différences de traitement entre filles et garçons. Ça m'insupportait, quoi. Vraiment, alors là, moi et mes frangines, hein, mais moi j'étais l'aînée, donc j'étais un peu la meneuse. Mais on ne comprenait pas. On ne comprenait pas pourquoi il y avait une différence de traitement entre les garçons qui pouvaient tout se permettre, nos frères, qui ne faisaient rien à la maison, donc on les servait en plus. Donc on était éduqués comme des servantes, et eux comme des enfants rois, à vivre comme ils l'entendaient, à sortir comme ils l'entendaient. Et nous, on était quand même enfermés du matin au soir, pas de liberté, peu de choses intéressantes à faire. Et ça, ça me rendait dingue. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de m'émanciper. C'était mon but premier. Je crois que j'ai toujours pensé à ça. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, ce que je veux obtenir, c'est mon bac. Et puis, c'était ça. Je me disais, tu obtiens ton bac et tu t'en vas. Et tu vis ta vie comme tu l'entends. Moi, j'avais pas envie d'une vie calquée sur celle de ma mère, par exemple. Ça m'intéressait pas. J'avais pas envie qu'on me propose un gars du bled à marier. Moi, j'avais pas envie de ça. J'avais pas envie de ça. Donc ça, c'est vrai que ça me rendait vraiment...
Tu voulais être libre.
Je voulais être libre, ouais. C'est vraiment ça, quoi. Je crois que ça m'a toujours accompagnée. Et encore maintenant, je crois que ça me poursuit.
Ça, c'est pas mal, hein.
C'est pas mal. Être libre, essayer de faire ce que je veux, quoi. Ce que je désire, vraiment. On n'y parvient pas toujours, c'est difficile, hein. C'est pas toujours facile d'être libre, c'est pas toujours évident.
C'est un long chemin.
C'est un long chemin.
Il y a des choses évidentes, mais après, c'est complexe, hein, ouais. Question.
Essayer de faire ce qu'on désire, c'est pas toujours facile, oui. De ce qu'on veut.
Être libre intérieurement aussi, oui, parce qu'on peut être libre, s'affranchir des quelques, voilà, ta famille ou un patron ou je ne sais quoi, où tu ressens concrètement une liberté, mais après, vraiment trouver la liberté au fond de soi, se dégager justement du regard des autres, de tout ça, c'est un long chemin.
Ça, c'est un très long chemin.
Que ça nous atteigne moins, même si concrètement, après, dans les faits, il y a des
choses. Oui, c'est un long chemin. Ouais. Vers ce qu'on appelle la sagesse. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Et ça, c'est vrai que
Toi, tu as eu des bons outils sur ta route pour développer la sagesse, quand même, plus que d'autres. Tu as eu des épreuves qui peuvent servir à ça. Hein.
C'est vrai. C'est vrai.
Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui... Oui.
Ben, aujourd'hui, tellement de choses me révoltent.
Est-ce que tu es quelqu'un d'engagé ou est-ce que, ça déjà, c'est une forme d'engagement d'écrire comme ça.
La littérature, mais c'est principalement dans l'écriture que je m'engage. J'essaie de parler justement de ce qui me révolte, de ce qui m'obsède au fond, hein, de ce qui me perturbe, de ce qui me touche au quotidien. Principalement, c'est vrai que c'est comme ça que c'est ma façon à moi de faire de la politique.
Oui, parce que moi, j'ai parlé essentiellement de ton premier roman, L'odeur des planches, et de celui qui sort Des gens comme eux. Est-ce que tu peux nous... Parce que je pense que c'est intéressant que nos auditeurs... moi, je ne les ai pas encore lus, mais je vais les lire. Mais par contre, je sais de quoi ils parlent. Les deux livres qui sont entre le premier et le
nouveau. Ah oui, alors le deuxième, effectivement, c'est Majda Arnout. Alors, c'est un portrait de femme, d'une femme de ma génération, dans une famille algérienne. Ben, c'est justement ça, un peu ce que racontait cette femme privée de liberté, qui a grandi dans ce milieu-là, et on la retrouve à 45 ans, elle est à moitié folle, elle n'a pas vu ses parents depuis 3-4 ans, je crois, dans le roman. Ils viennent la chercher dans un hôpital psychiatrique, et on va remonter le fil pour voir ce qui a pu se passer pour qu'elle en arrive à cet état-là. Donc là, c'est cette histoire de femme prise entre deux cultures. Donc ça, le troisième, il s'appelle « La faute à Saddam ». Là, c'est une histoire d'amitié entre deux hommes. Ça se passe entre Paris et la guerre du Golfe, donc le désert d'Arabie, pendant la première guerre du Golfe. Et là, j'ai surtout travaillé, justement, par les d'identité et du regard de l'autre. J'ai travaillé là-dessus. C'est un jeune d'origine algérienne qui se retrouve dans l'armée française, pensant qu'il est français. Et pour asseoir, justement, cette identité française, il s'engage dans l'armée française pour lutter pour la France et avec des soldats français contre l'armée irakienne. Et ils attendent dans ce désert, c'est long, c'est fatigant, il ne se passe rien. Et petit à petit va naître, dans ce groupe, il y a des choses qui vont se tendre. D'un coup, on va lui dire, ben, dis donc, toi, ça te fait rien qu'est-ce que ça va te faire de te battre contre tes frères arabes? Et lui, il se dit, tiens, un frère arabe, il ne l'avait jamais envisagé de cette façon-là. D'un coup, on va le désigner comme l'étranger dans ce petit groupe de soldats. Et ça va forcément mener à un drame. Et c'était cette, justement, on parlait d'identité tout à l'heure, cette identité, ce qu'on croit être et ce que nous renvoie l'autre, qui va exploser vraiment et qui va mener à quelque chose de tragique.
Et donc, il y a toujours le rejet par rapport à un préjugé, une illusion.
Ou une difficulté à trouver sa place, ou une difficulté à devenir ce qu'on est réellement, ce qu'on veut réellement.
Et puis toujours ce travail. Peut-être tu devrais faire du documentaire aussi.
J'adorerais.
Parce que je trouve que moi, ce qui me touche beaucoup en général dans le documentaire, et j'adore ce genre.
Moi aussi.
C'est vraiment parce que on peut prendre le temps plus que par rapport à un sujet qui est traité en 3 minutes dans un JT. Là, on peut prendre le temps de remonter. Moi, ça m'a aidé à comprendre pas mal de choses sur des situations, notamment au Moyen-Orient, parce que souvent dans ces documentaires qui sont faits bien après des périodes de conflits ou tout ça, ils vont interroger des anciens responsables, des armées, des ceci, de cela. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, l'info qu'on nous donnait au moment où ça se passait, il nous manquait tellement d'éléments pour comprendre ce qui se passait, en fait. Tellement d'éléments, soit d'éléments, des vraies raisons qui sous-tendaient les actions armées à ce moment-là, soit des antécédents qui ont amené, qui ne sont pas expliqués.
Ce qui n'a pas été dit.
Exactement. Et donc, je trouve ça intéressant. Parce que on prend le temps, comme tu le fais avec tes livres, D'ailleurs, les deux, je ne sais pas si les deux que je n'ai pas lus sont pareils, mais il y a toujours cette construction de présent-passé.
Oui,
on fait des allers-retours.
Dans les deux autres aussi.
Dans les deux autres aussi.
Ah oui, c'est vrai. Peut-être que ce sens de construction maintenant, mais c'est vrai que
moi, je trouve ça intéressant parce que ça offre une mise en perspective, comme on peut le faire en montage dans un documentaire.
C'est vrai.
Tu sais, dans un documentaire, on a aussi souvent des allers-retours dans le temps.
Oui, que j'adore d'ailleurs, c'est vrai, j'aime beaucoup ce genre aussi. Ouais.
Et là, dans tes livres, ça permet aussi, puisque là, on suit, dans Des gens comme eux, en fait, on suit Anna, qui, au moment du procès, qui essaie de remonter le fil. Donc, on a la réalité du procès qui se déroule. Et au milieu de ça, tu insères des chapitres où elle remonte le fil de l'histoire pour essayer de comprendre comment cet homme qu'elle aimait, avec lequel elle vivait, en est arrivé là. Est-ce qu'on peut parler des projets? Il y a un nouveau livre, tu as des idées pour la suite?
Oui.
Ou tu vas te consacrer à d'autres choses?
Non, il est... Enfin, il est... J'ai en fait, oui...
Parce que là, finalement, tu as repris pas mal d'activités dans divers domaines, si j'ai bien compris.
Oui, je refais du théâtre en tant que comédienne. J'ai aussi écrit des textes de théâtre, très peu. Je fais uniquement quand on me commande une pièce, mais sinon, ça ne me vient pas...
Mais L'odeur des planches a donc été montée, on l'a dit, avec Sandrine Bonnet.
Oui, ça a fait l'objet d'une adaptation théâtrale.
Avec des très bonnes critiques.
Oui, c'est un super, super moment, super, ça s'est très bien passé avec Sandrine Bonnet. Elle a très bien porté le texte.
Qui joue ton rôle, partie autobiographique et puis
D'abord, une lecture et après c'est devenu un spectacle parce que... Au départ, elle avait le texte à la main, et puis après, elle a dit qu'elle avait envie de lâcher le texte et de l'incarner vraiment, donc c'est ce qui a été fait. Et puis donc oui, j'ai en tête un nouveau roman, enfin à vrai dire, j'en ai 2-3, je suis un peu perdue, mais c'est normal, il faut toujours être paumé avant de se lancer. Il faut se perdre, et puis j'ai aussi des spectacles à venir, un prochain spectacle en répétition autour des violences policières, donc un sujet très, très actuel et très à vif.
Ou là, en tant que comédienne ou
En tant que comédienne.
D'accord.
Ouais, l'auteur, c'est Guillaume Caillet, un jeune auteur hyper talentueux. Et la metteuse en scène, ou la metteur en scène, je ne sais plus vraiment ce qu'on dit.
Metteureux
en scène, qui est Aurélia Lecheur. Voilà, donc je pense que ça va tourner pas mal aussi. Je crois que ça va jouer et à la MC 93, et on nous a dit à la Cité universitaire, je crois. Et puis une reprise d'un spectacle, ce sera, mais pas tout de suite, en janvier, je crois, 2021, d'un spectacle de Jean-Louis Martinelli et de Christine City sur les foyers d'urgence, dans lequel je joue une éducatrice, avec des jeunes acteurs très talentueux aussi, qui s'appelle « Ils n'avaient pas prévu qu'on allait gagner ». Voilà.
Samira, merci beaucoup.
Merci à toi.
pour tout ce partage, dans ce moment d'interview et aussi dans ces livres. Donc, je rappelle, Des gens comme eux, aux éditions...
aux éditions du Rouergue, dans la collection La Brune au Rouergue. Non, aux éditions du Rouergue, dans la collection La Brune.
Oui, voilà. Et puis moi, je vais mettre le lien de toute façon sur Sauce Suite Planète. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, si vous allez voir le petit texte qui accompagne ce podcast, quelle que soit l'application sur laquelle vous êtes, vous trouverez le lien pour aller sur Librairie Indépendante et pouvoir commander les livres de Samira Sedira et les explorer vous-même, maintenant que vous savez tout, ou presque. Merci beaucoup, Samira, et très bonne continuation.
Merci à toi.
Au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, n'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. À bientôt.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.